le monde. Merci pour l'invitation. Ce matin, je vais vous parler de discipline dépendante. Vous allez voir tantôt ce que ça mange en hiver, mais j'ai commencé une série à grand-mère sur ce thème-là, puis je dois vous dire qu'en 25 ans et plus de prédication, c'est le sujet qui me transforme le plus radicalement, on peut dire, entre guillemets, depuis quelques mois dans ma vie personnelle. Et vous allez dire, c'est le temps que je sois transformé, là, mais ce qui est merveilleux avec le Seigneur, on ne sait jamais trop tard. Et je veux partager avec vous ce sujet-là. Vous allez voir où je vais en venir avec cette histoire de discipline dépendante qui est cruciale dans notre vie chrétienne. Il faut la saisir, il faut la comprendre. J'aimerais ça qu'on tourne dans Romains chapitre 8, verset 29. Romains 8, 29. Comme j'ai annoncé à mes frères, au niveau de la technique, j'ai pas de PowerPoint, on va y aller avec le Power Spirit, la puissance du Saint-Esprit. Ce qui n'exclut pas la puissance du Saint-Esprit quand on a un PowerPoint. Mais Romains 8, 29, souvent lorsqu'on dit Romains 8, 28, ça, on sait quasiment le verset par cœur, hein, car toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, etc. Mais faut pas oublier Romains 8, 29, qui est crucial, qui est le but de notre salut. Et je le lis dans la version Darby, car ceux qu'il a préconnus, il les a aussi prédestinés. Et là, à quoi on est prédestiné comme enfant de Dieu? Si vous avez un problème d'estime de soi ce matin, écoutez, là, vous devriez vous remonter un peu avec ce verset-là, parce que on était prédestiné à être rien de moins que conforme à l'image de son Fils. C'est sûr qu'ultimement au ciel, on a parlé de notre espérance. D'ailleurs, Jean va dans son épître parler de cette espérance qui est laquelle, qui est qu'on le verra tel qu'il est. Je pense que c'est 1 Jean 3 de mémoire. Lorsqu'on le verra tel qu'il est et on sera rendu semblable à lui, ça c'est ultimement notre souhait et notre espérance. Et d'ailleurs, dans le même texte, dans 1 Jean, quiconque a cette espérance se purifie lui-même. Donc, si nous avons cette espérance comme enfant de Dieu, on a une purification qui doit s'instaurer dans notre vie. Et donc, première chose que je vais vous amener à réaliser ce matin, c'est que Dieu nous a sauvés, nous a prédestinés à être conformes à l'image de son Fils. C'est un projet de vie incroyable, ça. Autre texte que je vais vous amener, c'est 1 Thessaloniciens 4, 3. 1 Thessaloniciens 4, 3. C'est écrit ceci. Car c'est ici la volonté de Dieu, votre sainteté. D'autres versions diront, car la volonté de Dieu, ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Ça rejoint le premier texte qu'on a lu, parce que Dieu nous sauve pour qu'on soit rendu conforme à l'image de son Fils. C'est ça, ça s'appelle la sanctification. Et c'est pour ça, ce que Dieu veut dans ta vie, dans ma vie. Tu sais, des fois, on se demande, c'est quoi la volonté de Dieu pour ma vie? Tu sais, arrête de niaiser avec le poc, là. C'est 1 Thessaloniciens 4, 3. Ce que Dieu veut pour ta vie, c'est la sanctification. C'est que lorsque Dieu nous sauve, il se met tout de suite en mode transformation dans nos vies, pour en arriver à l'objectif de me rendre conforme à l'image de son Fils. Puis il fait ça comment? Par la sanctification. Alors, le texte nous dit, ce que Dieu veut pour ma vie, pour ta vie, c'est la sanctification. Et sachant que Dieu nous a sauvés pour nous rendre semblables à son Fils, sachant que par conséquent, il veut notre sanctification, qu'est-ce qu'on devrait rechercher dans notre vie? Qu'est-ce qu'on devrait poursuivre dans cette vie? Bon, on a la réponse dans Hébreux 12, 14, un autre texte auquel je vous invite à tourner. Hébreux 12, 14. Hébreux 12, 14. Poursuivez, et encore là, c'est dans la version Darby, poursuivez la paix avec tous et la sainteté sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Alors, ce que ça nous dit, c'est que puisque Dieu nous sauve, nous a prédestinés à être conformes à l'image de son Fils, puisque ça passe par la sanctification, donc ce que Dieu veut, c'est notre sanctification. Comme chrétien, quand je me lève le matin, ma motivation devrait de poursuivre la sainteté, devrait de rechercher la sanctification. Ce matin, ça ressemble quasiment, je dirais, avec les espaces entre les mains, on se croirait dans un avion, tu sais, mais on va s'imaginer comme si on était dans un gros Boeing un matin, t'as pas le droit, il y en a de la rangée. Puis, on décolle, ça vous a rien coûté, pas besoin de passeport, on est parti. On est 32 000 pieds dans les airs. Puis tout à coup, le pilote prend son micro, puis il nous parle dans son haut-parleur, puis il nous annonce ceci. Une fois qu'on est dans 32 000 pieds d'altitude, chers passagers, on est vraiment dans le trouble. C'est plaisant. L'une de nos ailes est sur le point de briser. Alors, ma question que je pose ce matin, laquelle des deux vous voulez qu'il brise, la gauche ou la droite? C'est une question niaiseuse incroyable. Hein, tu ne veux pas qu'aucune des deux ailes brise, parce que les deux sont essentielles. Les deux ailes sont essentielles. Et je vais prendre cette image d'un avion pour visualiser deux choses qui sont essentielles dans la vie chrétienne. Sur une aile, on pourrait marquer dépendance, et sur l'autre, on pourrait marquer discipline. Et cet avion illustre l'un des principes les plus importants de la vie chrétienne, parce que tout comme l'avion doit avoir absolument deux ailes pour voler, ainsi, on doit exercer à la fois la discipline et la dépendance à Dieu pour la poursuite de la sainteté. Et tout comme il est impossible pour un avion de voler seulement avec une aile, ça nous est impossible comme chrétiens, ça, il faut réaliser ça ce matin, c'est le message principal, c'est impossible de poursuivre la sainteté avec succès, avec soit seulement la dépendance à Christ ou à Dieu, ou soit seulement les disciplines spirituelles qu'on s'impose dans nos vies. On doit absolument avoir les deux. Et quand je parle de discipline, évidemment, j'utilise ce terme-là en faisant référence à certaines activités conçues pour entraîner une personne dans une habileté particulière. Regardez, on va tourner dans 1 Timothée 4:8. 1 Timothée 4:8. Puis avant de lire le texte, c'est bon de se dire ce matin qu'on a besoin absolument de ces deux choses dans nos vies pour poursuivre la sanctification, pour croître spirituellement et la dépendance à Dieu et les disciplines spirituelles qu'on s'impose. Puis, si on néglige une ou l'autre, même parfois, si on est dans une phase dans notre vie chrétienne où on néglige les deux, si vous êtes un enfant de Dieu, c'est là que souvent, peut-être, le Père Céleste va prendre sa main paternelle pour vous donner une petite tape, pour vous permettre de vivre des choses dans votre vie, pour vous retrousser l'avion un peu. Puis vous faire réaliser, oups, je suis en train de négliger la dépendance à Dieu, je suis en train de négliger les disciplines spirituelles dans ma vie. Alors parfois, lorsque l'avion a tendance à s'écraser, que la vie chrétienne semble tomber dans une spirale négative, si tu appartiens à Dieu, Dieu ne te laissera pas aller comme ça indéfiniment. Il va intervenir à sa façon. Des fois, ça fait mal. Des fois, ça fait moins mal. Pour te retrousser l'avion un peu. Puis là, pour que tu encore continues ta marche chrétienne, puis que tu continues ton envolée vers la sanctification. Et dans le texte que je vous ai suggéré, dans 1 Timothée 4:8, ça va aller mieux si je vois dans 1 Timothée 4:8, je suis dans 2 Timothée 4:8. 1 Timothée 4:8. Paul veut dire ceci à Timothée, car l'exercice corporel est utile à peu de choses. En passant, il ne dit pas que c'est inutile. Là, tu sais. Si tu es en train de t'entraîner, arrête pas de t'entraîner. Tu sais. L'exercice corporel, le Seigneur veut qu'on soit le plus possible en santé. On a la responsabilité, d'une certaine façon, de faire attention. Car l'exercice corporel est utile à peu de choses comparativement à quoi? Mais la piété est utile à toute chose, ayant la promesse de la vie présente et de la vie qui est à venir. Et à la fin du verset 7, il dira, « Exerce-toi toi-même à la piété. » Alors, on a une exhortation ici de Paul de s'exercer à la piété. Et Paul prend un terme et emprunte un terme du domaine de l'athlétisme. Originalement, le mot référait à l'entraînement de jeunes athlètes pour des compétitions. Plus tard, c'est venu à inclure à la fois l'entraînement mental et moral. Et Paul, donc, l'a utilisé ici pour référer à l'entraînement spirituel. Paul, ce qu'il dit en d'autres mots à Timothée, ce qu'il nous dit en 2015, « Exerce-toi à la piété. » Tu as un rôle à jouer dans ta sanctification. Par des disciplines spirituelles, qui fait partie d'une longue série, en passant, que je suis en train de faire. Et Paul le dit donc à Timothée de s'exercer. Puis d'un autre côté, la grâce de Dieu nous discipline aussi. Donc, on doit se discipliner nous-mêmes à la piété. Mais d'un autre côté, Dieu nous discipline ou nous forme ou nous entraîne par sa grâce. Et là, on va aller voir un texte qu'on connaît bien dans Tite, chapitre 2, l'épître de Tite. On n'est pas tellement loin après Timothée. Tite, chapitre 2 et le verset 11. Tite 2, 11, on lit ceci. Car la grâce de Dieu qui apporte le salut, et c'est merveilleux en passant, c'est par sa grâce qu'on est sauvé. Car la grâce de Dieu qui apporte le salut est apparue à tous les hommes. Et verset 12, cette grâce qui nous sauve, nous aussi, nous enseigne que, reniant l'impiété et les convoitises mondaines, nous vivions dans le présent siècle sobrement et justement et pieusement, comme en attendant la bienheureuse espérance, etc. Alors ici, on a la grâce de Dieu qui, elle, nous enseigne, qui nous forme. D'un côté. Alors, quand on regarde ça, on voit que d'un côté, on est exercé, on est formé par la grâce de Dieu. C'est le texte de Tite qui nous enseigne ça. D'où l'importance d'être dépendant à Dieu. D'où l'importance de développer une vie de prière. Et si je vous demandais, c'est quoi ta vie de prière à matin? Concrètement, honnêtement. Combien de temps tu passes à prier? Puis c'est encore là, il y a une petite étude intéressante. Deux sortes de prières. On prend l'exemple de Néhémie dans ce cas-là. Mais si on veut dépendre de Dieu, il faut avoir une vie de prière. Donc, d'un côté, on est exercé par la grâce de Dieu. Et si on veut développer notre dépendance à Dieu, ça passe par la prière. Puis d'un autre côté, on doit s'exercer nous-mêmes à la piété. On a un rôle à jouer dans notre sanctification. On a donc des responsabilités à remplir pour poursuivre la sainteté. Mais l'idée de l'illustration de l'avion du début du message, c'est qu'on ne doit pas essayer d'accomplir nos responsabilités avec notre propre force et notre propre volonté. On doit dépendre du Saint-Esprit qui nous rend capables de faire ça. D'où les deux ailes de l'avion, c'est indispensable. On doit agir, mais agir par sa force. On doit dépendre du Saint-Esprit qui nous rend capables, et en même temps, on ne doit pas assumer que nous n'avons aucune responsabilité simplement parce qu'on est dépendant à Dieu et de Dieu. Dieu nous rend capables de travailler, mais il ne fait pas le travail pour nous. Puis il y a plusieurs exemples dans les Écritures où les concepts à la fois de dépendance et de responsabilité apparaissent dans la même phrase ou le même paragraphe. Puis je vous invite à tourner dans un texte intéressant, Psaume 127, verset 1. Psaume 127, verset 1. Le psaume 127, verset 1 dit ceci. Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent, ils travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde veille en vain. Et c'est intéressant parce que le psalmisme voit Dieu si intimement impliqué dans la construction, première image, ou la surveillance, deuxième image, qu'il va dire à moins que le Seigneur ne construise la maison, à moins que le Seigneur ne veille sur la ville. Il ne dit pas à moins que le Seigneur n'aide les constructeurs et les surveillants, mais à moins que le Seigneur ne construise et ne veille. Donc, le psalmisme voit Dieu si intimement impliqué dans la construction, si intimement impliqué dans la surveillance, qu'il formule son verset 1 de cette façon-là. À moins que le Seigneur ne bâtisse, à moins que le Seigneur ne surveille, etc. Maintenant, c'est juste aussi évident que le psalmisme voit aussi des constructeurs en train de véritablement travailler à construire la maison et un surveillant en train de véritablement assurer et monter la garde sur la ville. Tu sais, quelqu'un ne peut pas prendre ce verset-là ce matin, surtout vous êtes en pleine période de construction, on vient d'avoir des annonces tantôt. Quelqu'un peut prendre ce verset-là puis dire à la sœur qui a fait des annonces ce matin, « Mais regarde, nous autres, c'est le Seigneur qui bâtit la maison. » C'est marqué. Moi, là, je fais le mot pas avec tes annonces, puis tes extranets, puis intranets, puis par là. Tu sais. Alors, il y en a qui pourraient prendre ça de même, mais non, ça n'a pas de sens. Les constructeurs ne peuvent pas serrer leurs outils puis aller à la pêche puis s'attendre à ce que Dieu va construire la maison tout seul. Pas plus que le surveillant ne peut retourner dans son lit et s'attendre à ce que Dieu garde la ville. Les constructeurs doivent travailler et les surveillants doivent monter la garde, mais ils doivent tous effectuer leurs responsabilités dans une telle dépendance totale à Dieu. C'est ça la clé. Que le psalmiste me parle de sa construction à lui et de sa surveillance à lui. On va aller voir un bel exemple dans Néhémie. Néhémie qui est ce constructeur de murailles, on va tourner dans un texte tantôt, qui a bien compris le principe de la discipline dépendante. L'idée que nous sommes à la fois dépendants et responsables. Et dans son projet de reconstruction des murailles autour de Jérusalem, Néhémie a fait face, on le sait tous, à de la grande opposition de la part de certains ennemis des Juifs. Et quand les Juifs avaient reconstruit les murailles à la moitié de leur hauteur, les Écritures vont rapporter ceci. Je vous invite à tourner dans Néhémie chapitre 4. Néhémie chapitre 4 et le verset 8. Néhémie 4, 8, je vous laisse le temps, là. C'est pas un texte qu'on voit souvent. C'est avant Esther, peut-être que ça ne vous aide pas. C'est pas loin de Job. Néhémie chapitre 4 et le verset 8. Dans le contexte, dans Néhémie 4:8, on apprend qu'ils se liguèrent tous ensemble pour venir faire la guerre contre Jérusalem pour lui causer du dommage. Regardez la réaction. Dans une seule phrase, on a la discipline dépendante. Verset 9 de Néhémie 4. « Et nous priâmes notre Dieu et nous établîmes une garde contre eux jour et nuit à cause d'eux. » C'est intéressant comme texte. Où on voit vraiment dans une seule phrase la discipline dépendante. À la menace d'une attaque, voilà que son peuple, qu'est-ce qu'il a fait? Il a prié, dépendance à Dieu, mais il est passé à l'action, il a établi une garde. Il reconnaissait Néhémie, sa dépendance à Dieu, il a pris la peine de prier, nous priâmes, il dit, mais il acceptait aussi sa responsabilité de travailler, soit d'établir une garde. Aujourd'hui, on aurait tendance à diviser ça en deux camps. Les gens les plus spirituels feraient un appel dans la même situation que Néhémie, peut-être lanceraient ou colleraient à Chotte pour une réunion de prière qui durerait peut-être même toute la nuit. Hey, ça, c'est encore plus spirituel. Et là, pour eux, établir une garde, ça serait de dépendre sur l'effort humain au lieu de dépendre sur Dieu. Tandis que les gens plus pratico-pratiques d'entre nous s'affairaient à organiser tout de suite une garde sans prendre la peine de prier. Alors, ces gens-là feraient un bon travail à assigner chacun aux différentes veilles de la nuit, mais seraient trop occupés pour prier. Hein, ils diraient, qu'est-ce que tu veux dire? On n'a pas le temps de prier, là, c'est le temps de monter à la garde, il y a des ennemis qui s'en viennent. On n'a pas le temps de niaiser. Hey, on a des hommes établis au poste de garde. Mais Néhémie et son peuple, ce que j'aime dans ce verset-là, on fait les deux. Ils ont prié, mais aussi ils ont établi une garde. Ils ont reconnu leur dépendance envers Dieu, mais ils ont aussi compris qu'ils étaient dépendants de lui pour les aider et les rendre capables, non pas pour faire leur travail pour eux. Et je prends l'exemple encore de votre construction, de votre projet de construction. Ça me réjouit de voir qu'il y a des réunions de prière régulièrement par rapport à votre projet. Vous faites les deux. Vous dépendez de Dieu pour votre projet, mais il faut qu'il y ait du monde qui monte la bâtisse. Tu sais, ça paraîtrait très spirituel de passer des semaines à prier pour le projet, puis tout le monde reste chez eux. Puis on est encore sur le solage, puis whatever. Puis à l'inverse, de se précipiter dans le projet sans consulter Dieu, c'est la pire gaffe. C'est ce qui fait que vous pourriez dire un jour, « Ben, notre construction, ça a été sa construction. Notre projet, ça a été son projet. » Dans le fond, de paraphraser le psaume 127.1, et c'est pour ça que ça me réjouit de voir, je vous dis régulièrement votre bulletin l'écho, qu'il y a des réunions de prière régulièrement pour votre projet. C'est merveilleux, c'est important, c'est essentiel. Ça, c'est aussi important que l'autre, que de passer à l'action. Mais la vie spirituelle, la vie chrétienne et notre vie de sanctification, ça implique ces deux principes fondamentaux. Je dois dépendre de Dieu, je dois avoir une vie de prière dans ma vie qui est réelle. Et ça, encore là, je me pose la question, est-ce que j'ai une vie de prière? Mais aussi, je dois passer à l'action. Et donc, je dois vraiment avoir les deux éléments dans notre vie. Puis, c'est toute une belle étude. Quels sont les genres de disciplines spirituelles que je dois m'appliquer dans ma vie pour poursuivre la sainteté? Parce que, prenez l'image rapidement d'un cultivateur. T'sais, un cultivateur, là, il a des responsabilités de semer, de travailler la terre. Il y a un paquet de tâches qu'il doit faire. Mais on s'entend-tu que ce n'est pas lui qui fait pousser? Il doit dépendre de Dieu pour que ça pousse. Mais Dieu a beau avoir le pouvoir de faire pousser des légumes, si le cultivateur ne fait pas ce qu'il a à faire comme travail, il ne se passera absolument rien. C'est le même principe dans notre vie spirituelle. Dieu a la puissance de nous transformer. Dieu a la volonté de nous transformer. Mais si je n'applique pas des disciplines spirituelles dans ma vie pour qu'il me transforme, il ne se passera pas rien. Mais à l'inverse, si je fais des disciplines spirituelles, puis des disciplines spirituelles, puis des cultes personnels, disciplines, mais que je ne dépends pas de Christ, j'aurai zéro puissance dans mes disciplines spirituelles. C'est pour ça que c'est fondamental de saisir ce principe de la discipline dépendante si je veux grandir spirituellement, si je veux être de plus en plus semblable à l'image de son Fils. On pourrait prendre des exemples. Oui, il y en a qui vont dire, ouais, mais dans l'Ancien Testament, il y a des exemples où Dieu est miraculeusement intervenu sans que l'homme ne fasse rien. Oui, c'est vrai que Dieu a mené des batailles pour Israël sans qu'Israël ait de quoi faire, mais ça, c'est vraiment des exemples ou des exceptions et non la règle. Mais si on regarde dans le Nouveau Testament, c'est le principe de la discipline dépendante. Il n'y a pas un seul exemple dans l'enseignement du Nouveau Testament sur la sainteté où nous sommes enseignés de dépendre sur le Saint-Esprit sans un exercice correspondant de discipline personnelle dans notre vie. Il n'y a aucun exemple de ça. Dans le Nouveau Testament, c'est des exhortations continuellement à la discipline dépendante. La discipline n'est pas nécessairement une dépendance sur l'effort humain, il faut le préciser. C'est pas une œuvre de la chair. Le fait que je me donne des disciplines, que je m'impose des disciplines dans ma vie, ça peut l'être malheureusement, ça peut être teinté de pharisianisme, c'est toujours le danger, mais Paul exhorte Timothée à s'exercer à la piété. Mais tournez dans 2 Timothée 2.1, on retourne dans le Nouveau Testament. 2 Timothée 2.1. Tantôt, on a vu que Paul exhortait Timothée à s'exercer lui-même à la piété. Mais gardez l'autre aile de l'avion, on peut dire. Il va dire dans 2 Timothée 2.1, « Toi donc, mon enfant, fortifie-toi, non pas toi-même, mais fortifie-toi comment? Dans la grâce qui est dans le Christ Jésus. » Alors, ce n'est pas une contradiction. C'est les deux éléments essentiels de la croissance spirituelle. Exerce-toi la piété, donc impose-toi des disciplines spirituelles, Timothée, mais de l'autre côté, fortifie-toi dans la grâce de Christ. Oublie jamais ta dépendance à Dieu pour la sainteté. Oublie jamais ta dépendance à Dieu pour être transformé. C'est lui qui a la puissance de la transformation. Ce n'est pas tes disciplines qui te transforment. Mais ce sont les moyens que Dieu prend pour me transformer. Et un ne va pas sans l'autre. Alors, c'est un autre élément essentiel à se rappeler ce matin, ces deux éléments. Je vais leur avancer rapidement. On va voir un dernier exemple dans Colossiens, chapitre 1. Colossiens, chapitre 1. Et le verset 28. Colossiens 1, 28. Donc, Christ en vous, l'espérance de la gloire juste avant, lequel nous annonçons, exhortant tout homme et enseignant tout homme en toute sagesse, afin que nous présentions tout homme parfait en Christ. Mais c'est surtout le verset 29, encore là dans la version Darby. À quoi aussi je travaille, combattant selon son opération qui opère en moi avec puissance. Il n'y a pas de plus beau verset pour nous montrer la discipline dépendance. La discipline dépendante. Paul va dire, je travaille. Là, il n'est pas en train de se péter les bretelles. Non, il travaillait vraiment, comme ceux qui travaillent actuellement à la construction à l'Église du Cap, je pense qu'ils travaillent vraiment. Je travaille, mais selon combattant, selon son opération qui opère en moi avec puissance. Alors, je fais ça avec sa puissance et non avec mes propres forces. Dans la poursuite de son ministère, Paul nous dit dans ce texte-là qu'il travaillait, et le terme qu'il emploie est assez intéressant, même jusqu'à combattre. jusqu'à combattre. Et le verbe grec pour travailler est un mot fort qui dénote un labeur au point d'épuisement. Le mot combattre en grec, c'est le mot agonizomai, d'où nous avons notre mot agoniser. Ça transporte l'idée d'un athlète forçant pour gagner la course. Ce que Paul est en train de dire, hey, je travaille, puis c'est pas de petit travail. On lit les épîtres, on voit que Paul travaillait. Paul combattait. Paul agonisait. Paul travaillait à l'extrémité. Il y avait la pédale au fond, comme un coureur automobile. Alors, le mot est fort. Alors, on ne peut pas douter sur l'intensité des efforts de Paul. Il a peiné jusqu'au point de l'épuisement. Il a agonisé comme un athlète forçant pour briser la banderole au fil d'arrivée. Mais il ajoute rapidement, « Mais je fais tout ça, j'agonise quasiment, je travaille, mais avec sa force qui agit puissamment en moi. » Alors, Paul luttait, mais il le faisait dans la force du Seigneur. Il était discipliné dans son ministère, mais il était aussi dépendant du Seigneur. Puis, pour revenir à notre illustration de l'avion, il n'a pas essayé de voler avec seulement une aile. Et donc, ce matin, c'est un court message qui servait d'introduction dans ma série à grand-mère, mais sur cette importance dans nos vies spirituelles. Si on veut grandir dans la sainteté, il faut être sérieux avec ça. On est sauvé pour être conforme à l'image de son Fils. Ce que Dieu veut, c'est notre sanctification. Rechercher la sanctification par conséquent. Alors, quand je me lève le matin, là, je dois commencer ma journée en disant, « Seigneur, transforme-moi aujourd'hui. » Puis là, je dois m'imposer des disciplines spirituelles. Mais je dois dépendre de Dieu. Et vous savez, quand on parle de vie de prière, c'est tellement un sujet, la prière. On a tellement entendu de messages sur la prière, mais je trouve que c'est le sujet le plus difficile à appliquer dans nos vies. À se discipliner à prier, là, c'est tout une job. Puis je suis sûr que des frères et des sœurs dans la salle, c'est des bons prieurs, des bonnes prieuses. Discrètement, peut-être qu'on ne les voit pas en avant, peut-être qu'on ne les voit pas en apparence actifs dans l'Église. Mais ce sont des prieurs, des prieuses extraordinaires. Mais la dépendance à Christ se développe par la prière. Rapidement, deux types de prières que Néhémie nous propose dans son texte. On n'a pas le temps d'aller voir, mais des prières prolongées, persévérantes, planifiées. Ça, c'est-à-dire de prendre du temps puis prier quotidiennement, prendre du temps à part pour prier sur tel et tel sujet. Néhémie l'a fait pour son projet. Mais ça, c'est vraiment, ça demande une discipline incroyable. Puis ne pas lâcher de persévérer dans la prière alors que, mon fils n'est pas encore sauvé ou telle affaire qui n'est pas encore réglée ou telle chose que j'ai à cœur qui n'est pas encore répondu. Puis aussi, l'autre type de prière, lequel je suis pas mal meilleur, pour me vanter, des prières spontanées, tu sais, au quotidien. Seigneur, merci Seigneur, Seigneur, aide-moi, Seigneur, ouf, Seigneur, tu sais, moi, je suppose que vous êtes comme ça, vous avez des petites prières rapides, là, rapido, mais les deux types de prières sont importantes. Néhémie a fait une petite prière rapide avant de parler au roi. Il a prié avant de lui adresser une réponse. Alors, développons ça dans nos vies, frères et sœurs, cette vie de prière prolongée, planifiée, persévérante, mais aussi ces prières spontanées, comme je dis, c'est moins dur de faire ça lorsqu'on est face à quelque chose. Hein? Chaque jour, on nous apporte son lot de situations où on demande, Seigneur, aide-moi. Merci, Seigneur, de m'avoir évité un accident. Seigneur, Seigneur, ci, Seigneur, ça. T'sais, c'est ça, être en communion en prière. Développons une prière prolongée, persévérante, planifiée. Puis de l'autre côté, développons les disciplines spirituelles. Puis la première discipline spirituelle, si jamais je reviens un jour, si d'ici ce temps-là, le Seigneur me montre d'autres choses qu'on pourrait voir ensemble, c'est la discipline de l'engagement. Tu sais, là, c'est peut-être parce que je suis rendu à 53 ans, puis je réalise qu'il m'en reste moins qu'il m'en restait. Bon. Mais je suis rendu à l'étape de ma vie, là. Je vais être sérieux avec le Seigneur de plus que jamais par rapport à ma sanctification. Puis la première discipline qu'on doit s'imposer comme chrétien, c'est la discipline de l'engagement. Puis ça, c'est impliquant. Puis il y a un super beau verset dans le psaume 119 qui nous amène à ça, qui nous appelle à ça. Puis, tu sais, on est dans une société qui déteste l'engagement, on s'entend-tu? On est à contre-courant quand on dit qu'on veut s'engager. On regarde le nombre de mariages, puis... J'en ai fait allusion ce matin un peu, tu sais, quand tu es rendu avec un site d'infidélité qui a 30 quelques millions d'utilisateurs, ça veut dire autant de personnes qui veulent tromper sa femme, ouvertement, ou son mari. Tu sais, je veux dire, ça fait dur, là. Ça, c'est un site qui permet ça, mais on s'entend-tu qu'on est dans une société anti-engagement? Alors que nous, comme chrétiens, si on veut croître, persévérer ou poursuivre la sainteté, il faut être sérieux avec le Seigneur, il faut s'engager. Puis je veux dire s'engager, ça veut dire prendre des résolutions. Ce n'est pas des résolutions du Nouvel An, c'est vraiment des résolutions. Puis des résolutions dans des points précis dans nos vies. Et je vous dis quelque chose, là. C'est un message transformateur. N'oublions pas, dépendance, discipline. On va terminer par un mot de prière. Seigneur Dieu, merci pour ce temps qu'on a eu ensemble et au repas et maintenant avec ces textes qu'on a lus, Seigneur, ces exemples flagrants que, oui, tu as un rôle à jouer dans notre sanctification, un rôle essentiel, mais aussi on a un rôle essentiel à jouer parce que si on ne s'impose pas des disciplines spirituelles, tu ne pourras pas agir dans nos vies. Père, les deux, comme les ailes d'un avion, sont indispensables, essentielles. Et Seigneur Dieu, améliore ma vie de prière, notre vie de prière, pour qu'on puisse améliorer notre dépendance à toi. Mais aussi, Seigneur, qu'on puisse s'imposer des disciplines spirituelles qui vont permettre à ton esprit de travailler en nous et par nous. Et Seigneur, tu connais la situation de chacun, la vie spirituelle de chacun. Puis Seigneur, c'est sûr qu'il n'y a pas de progression de sainteté sans ces deux ailes-là. Et Père, si on s'examine, c'est peut-être justement là ma faiblesse ou notre faiblesse, un manque de prière dans notre vie, puis aussi un manque de discipline spirituelle. Seigneur, tu nous as créés pour ta gloire, tu nous as sauvés pour ta gloire, tu nous as sauvés pour nous rendre maintenant conformes à l'image de ton Fils. On le sera ultimement à ta présence un jour, mais déjà sur cette terre, par la sanctification, on le devient de plus en plus semblable à ton Fils. Mais Père, on veut l'être de plus en plus encore, plus vite. Et Seigneur, ça prend de l'engagement, Seigneur, de notre part. Et c'est notre prière ce matin. Rends-nous semblables à ton Fils. Aujourd'hui même, par nos réactions, par notre pensée, par nos paroles, par nos actions, cette semaine. Et Seigneur, que le péché soit de moins en moins présent dans notre vie. Et tout ça, on a besoin de ta force parce que ton Fils l'a bien dit avec cette image du cep et des sarments. Sans lui, on ne peut rien faire. Et Seigneur, d'un autre côté, dans Philippiens 4, on dit « On peut tout par celui qui nous fortifie. » On te remet tout ça entre tes mains, Seigneur, et fais de nous des chrétiens engagés dans la sanctification. Puis on te continue de prier pour ce projet de construction qui avance. Donne du courage à ceux qui sont impliqués en première ligne, puis les autres aussi, Seigneur. Fais que tu pourvois continuellement d'ici la fin pour que tout se complète et que tout se fasse dans la joie, justement, de te servir. S'il y en a qui sont découragés, Seigneur, encourage-les particulièrement ce matin. Et Père, on te prie de bénir ton peuple au Cap de la Madeleine et fais en sorte que ce soit ici ou dans le futur bâtiment, que cette Église te glorifie. Au nom de Jésus pour ta gloire. Amen.